Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Et nous voici au début d'une nouvelle exploration biblique. Et nous avons comme projet cette fois de confronter le livre des Proverbes de la Bible, donc, et sa sagesse millénaire, de confronter à notre vie moderne pour voir si cette sagesse populaire laisse des traces encore aujourd'hui, et si oui, lesquelles. En fait, le genre littéraire proverbe n'est pas spécifique à la Bible. Bien sûr, on le rencontre dans presque toutes les cultures. Et d'ailleurs, la Bible n'hésite pas à emprunter quelques thèmes ou à s'inspirer de proverbes étrangers. On peut y reconnaître, par exemple, l'influence de l'Égypte ou de Sumer. Mais leur grand art à ceux qui ont écrit la Bible, c'est justement d'avoir réussi à les intégrer dans la tradition d'Israël, ce qui montre son aspect international ou même universel.
Oui, ce livre des Proverbes est d'ailleurs attribué par la tradition du judaïsme au roi Salomon, roi connu pour son immense commerce international et bien sûr pour ses mariages avec des centaines de femmes étrangères, des filles de rois et même, on sait, une fille de Pharaon. Mais cet aspect cosmopolite n'est pas la seule raison d'attribuer les proverbes au roi Salomon. C'est quand même un roi d'abord réputé pour sa sagesse. Hein. Rappelons-nous le jugement, l'expression « jugement de Salomon », quand pour trouver qui est la vraie mère d'un bébé, il propose de le couper en deux. Hein. Je vous rappelle donc premier livre des rois, chapitre 3, versets 16 à 28. Et ce texte se termine par ces mots. On regarda le roi avec crainte et respect, car on avait vu que la sagesse de Dieu était en lui. Et ça est confirmé encore un peu plus loin, donc toujours dans le livre des rois, premier livre des rois, au chapitre 5, verset 9, je vous le cite, « Dieu donna à Salomon une sagesse et une intelligence très grandes et un cœur aussi vaste que le sable au bord de la mer. »
Oui, c'est intéressant, cœur, il faudra qu'on réfléchisse sur ça. La sagesse de Salomon un rapport avec le cœur, et lui vient donc de Dieu. Et c'est cette sagesse qui lui permet de composer des proverbes. En effet, toujours selon le premier livre des rois, chapitre 5, qui nous dit « Grande était la sagesse de Salomon, plus que la sagesse de tous les fils de l'Orient, plus que la sagesse de l'Égypte. Il fut le plus sage des hommes, son nom était connu de toutes les nations d'alentour. Il prononça 3000 proverbes. » Ceci va nous aider à mieux définir ce qu'est un proverbe dans la Bible. C'est bien sûr une courte sentence hein, qui exprime une vérité de portée universelle, mais qui, et ça c'est une spécificité des proverbes bibliques, ils ont un enracinement en Dieu. Ils dépassent la simple mémoire de l'expérience populaire. La personne même de Salomon est là pour donner une sorte de caution religieuse à l'enseignement contenu dans les proverbes.
Donc ce genre littéraire, assez, donc on l'a dit, commun dans de nombreuses cultures, prend ici une dimension supplémentaire. Il se rattache donc à l'alliance entre Israël et Dieu par l'intermédiaire de la loi et donc aussi par la médiation royale, puisque le roi est l'instrument de Dieu pour gouverner son peuple. Il a reçu l'onction sacrée qui lui permet d'être en relation directe avec Dieu. Et c'est particulièrement vrai pour le roi David et pour Salomon, hein, qui demanda à Dieu de lui accorder la sagesse nécessaire pour bien diriger Israël. Hein, on retrouve cela raconté toujours dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 4 à 15, que je vous résume. Hein, je vous résume un peu le dialogue entre Dieu et Salomon, donc en deux versets. Donc au verset 9, c'est Salomon qui parle et qui dit « Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple. » Et un peu plus loin, au verset 12, Dieu répond « Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. »
Voilà donc qui donne au proverbe une solennité qu'on ne s'attendait pas forcément à trouver dans ce genre de texte. Et d'autre part, nous devons quand même constater que l'ensemble du livre des Proverbes est composé de différentes collections qui ont très certainement été rédigées à des époques différentes. Mais ça ne doit pas nous troubler, puisqu'en fait, c'est le cas pour toute la Bible. Donc, nous devons plutôt nous appuyer sur le fait que ces proverbes avaient certainement une origine commune très ancienne et que bien avant d'être mis par écrit, ils se sont d'abord transmis oralement, et comme toute la culture hébraïque probablement. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette mémoire antique, faite de conseils pour rendre la vie humaine meilleure, n'est finalement pas séparée de la loi donnée à Moïse pour Israël. Parce que dans le fond, c'est la même sagesse qui, en réalité, trouve sa source en Dieu.
Oui, mais surtout, on voit alors que chaque époque a su se réapproprier ce réservoir de sagesse. Alors, la question que nous devons maintenant nous poser est, voilà, pouvons-nous aussi nous approprier ces textes en les réactualisant ? Ces proverbes nous concernent-ils encore ? Ou bien la nature humaine a-t-elle tellement changé que toute cette sagesse est maintenant obsolète ? Alors, sans vouloir présumer de nos conclusions futures, il me semble que sur le plan moral, qui est concerné ici, l'humanité n'a pas tellement évolué depuis les millénaires. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la Bible a traversé les âges pour nous atteindre aujourd'hui avec toujours autant de force. Mais pour réussir une bonne actualisation, il faut aussi une bonne traduction, on s'en est rendu compte. Il faut arriver à trouver les mots actuels et s'ajuster au vocabulaire contemporain. Sinon, voilà, le côté un peu vieillot de ces textes risque d'affaiblir ou d'affadir la valeur du message.
Oui, et c'est là, me semble-t-il, une partie importante de notre travail. Nous ne devrons pas hésiter à décortiquer le sens des mots pour leur donner la portée maximum. Déjà, on peut commencer avec le mot « sagesse ». Qu'est-ce qu'on met exactement comme contenu à ce mot ? Si on pense par exemple à un enfant sage, alors ça fait quoi ? Un enfant calme, docile et obéissant. Hein, c'est en général. Alors je ne suis pas sûre que ce soit un modèle qui correspond encore aux enfants d'aujourd'hui. Si par contre on parle de vieillard sage, ben on pensera plutôt à tout le savoir qu'il a accumulé au long de sa vie, mais plus par l'expérience concrète que par la théorie, et qui lui a permis de devenir, comme on dit, philosophe. Alors, qu'est-ce que c'est, philosophe ? C'est d'avoir un juste regard sur les choses. Alors, il y a quelque part un équivalent entre sagesse et intelligence, alors. Mais une intelligence fondée d'abord sur ce qu'on dirait le bon sens. Et d'ailleurs, ce bon sens est suffisamment rare pour qu'on ne puisse pas considérer qu'il suffit d'être vieux pour être sage.
Oui, mais pour l'âge moyen, l'âge adulte, alors, en quoi consiste la sagesse ? Alors, on comprend bien ici pourquoi Salomon a longuement prié Dieu pour obtenir le don de la sagesse. Parce qu'il était encore jeune, et il ne pouvait pas donc s'appuyer sur sa seule expérience. Et qu'étant adulte, il ne pouvait pas non plus simplement se contenter d'obéir aux règles, aux coutumes, pour prendre des décisions. Parce que la vie change sans cesse, et qu'il faut savoir s'adapter aux circonstances nouvelles et discerner ce qui est bien et juste. Sans doute, nous aussi, aujourd'hui, devrions-nous penser à prier un peu plus pour demander à Dieu une sagesse suffisante pour être un adulte responsable, sachant faire les bons choix et prendre les bonnes décisions à tout moment.
Vous Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous abordons maintenant le livre des Proverbes pour essayer d'en retirer des enseignements pour aujourd'hui. Dans la Bible, ce livre fait partie des écrits de sagesse, comme par exemple les psaumes ou l'Ecclésiaste. Mais nous devons essayer de définir ce qu'est cette sagesse, dont le principal porte-parole est le roi Salomon, qui est considéré comme étant l'auteur des Proverbes. Nous venons déjà de remarquer que la sagesse va, probablement avec un regard calme et réfléchi sur les événements de la vie, également avec une intelligence concrète pleine de bon sens, mais aussi avec un art de vivre selon la volonté de Dieu. Et j'ajouterai à cela que, un peu d'étymologie latine pour faire savant, mais sagesse vient de sapientia, qui vient d'un verbe sapere, qui veut dire goûter. Donc, la sagesse est apparentée à la saveur, au goût. Il faut savoir apprécier ce qui est bon, éprouver la qualité de quelque chose, mais par le goût.
Et en ce sens-là, nous rejoignons les commandements de Dieu dans la loi d'Israël. Car ce ne sont pas des contraintes et des frustrations imposées aux hommes, ce sont bien en réalité des directives qui sont données à l'humanité pour aller vers ce qui est bien, hein, ce qui est bon et juste, et ce qui conduit vers une vie meilleure pour tous. Donc la sagesse est en quelque sorte un sixième sens, hein, qui fait apprécier le bien, le ressentir, et rejoindre presque instinctivement la volonté de Dieu. Et tout le début du livre des Proverbes, donc le chapitre 1, les versets 1 à 7, est consacré à une présentation générale qui nous montre le but de ce texte. C'est acquérir cette sagesse. Donc, commençons donc à lire cette introduction, mais avec précaution pour le choix des traductions. Car chaque mot devrait pouvoir, autant que possible, rejoindre notre expérience contemporaine.
Oui, je pense qu'il vaut mieux quand même lire une première fois toute cette section pour avoir une vue d'ensemble. Je prends ici la traduction officielle liturgique, qui est assez récente, elle est de 2013. Donc, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Veux-tu connaître la sagesse et l'instruction, avoir l'intelligence des propos intelligents? Veux-tu acquérir une instruction éclairée? La justice, le jugement, la droiture. Veux-tu rendre astucieux les naïfs, donner aux jeunes gens savoir et perspicacité? Que le sage écoute, il progressera encore, et l'homme intelligent apprendra à diriger. Il saisira les proverbes et les traits d'esprit, les propos des sages et les énigmes. Le savoir commence avec la crainte du Seigneur, sagesse et instruction, l'insensé les méprise.
Voilà, déjà donc le titre, au verset 1, Proverbe de Salomon. Alors on peut toujours discuter l'authenticité d'une telle affirmation, comme le font beaucoup d'exégètes contemporains, mais c'est pas notre propos ici. Faisons simplement confiance à cette attribution traditionnelle, même si elle est symbolique. Elle nous dit le lien étroit entre sagesse des proverbes et Dieu. Alors, ensuite, le verset 2 commence par « veux-tu ?» sans nommer le destinataire à cette question. À la limite, on peut penser que n'importe quel lecteur est concerné. Alors, donc, pourquoi pas nous ? Cela dit, dans la traduction œcuménique de la Bible, le texte, lui, est différent. Il est dit seulement, proverbe, « destiné à faire connaître ». Donc, la question « veux-tu ?» a complètement disparu. Alors pourquoi? Quelle est la bonne interprétation?
Toujours problème des Bibles, différentes traductions. Je crois que pour trancher, il faut faire référence à l'original hébreu, parce que l'hébreu est plus bref encore. Il dit simplement « pour connaître la sagesse et l'instruction ». Voilà. Donc ici, s'il faut choisir, je choisirai le texte de la traduction œcuménique qui est plus proche, parce que la question « veux-tu ?» n'existe pas à l'origine. Ce qui n'empêche pas qu'on peut se sentir quand même concerné par cette lecture. Cela dit, on devrait surtout, à mon avis, réfléchir sur le mot « éducation » que la traduction œcuménique de la Bible a choisi à la place d'instruction. Est-ce qu'il y a une différence entre éducation et instruction? En hébreu, le mot moussa renvoie à une racine qui veut dire, alors accrochez-vous, ça veut dire corriger, reprendre, châtier, même en frappant.
Voilà.
Hein, donc de là vient l'idée d'instruire et en corrigeant, alors bien plus par des paroles que par des coups, mais pas toujours, hein, parce que l'éducation au sens biblique est assez sévère, et nous le verrons au cours du livre, il y a toujours l'idée qu'il faut lutter contre l'influence d'un mauvais penchant et que parfois la manière forte est nécessaire. Mmh. Alors on est encore loin de la conception actuelle de l'éducation permissive.
Oula. Alors, si on continue, ensuite vient le mot intelligence. Alors, la Bible liturgique disait donc intelligence de propos intelligent, alors que la traduction œcuménique dit l'intelligence de sentences pleines de sens. Alors, encore là, pourquoi différence? Alors, sans doute déjà, comme toujours en littérature française, parce que bon, on essaie d'éviter les répétitions. Mais aussi bien qu'on sait bien qu'au contraire, hein, l'hébreu cherche par les répétitions, à donner l'insistance hein, sur les mots importants. Et de fait, l'hébreu emploie ici deux fois la même racine, hein, donc qui signifie une intelligence pénétrante, qui scrute profondément pour comprendre. C'est d'ailleurs la même racine qui sert pour dire « dans » ou « dedans ». Donc, pas simplement une connaissance superficielle, hein, un peu comme la confiture, hein, mais bien une capacité d'aller au fond des choses pour trouver le vrai. Donc là, gardons plutôt la traduction liturgique, hein, l'intelligence des propos intelligents. Alors, ensuite, cette même traduction, par contre, nous présente le verset 3 à nouveau comme une question « veux-tu ?» Hein, qui n'existe toujours pas.
Oui, ben ça sera jusqu'au bout, c'est un choix du traducteur. Mais l'hébreu dit littéralement « pour acquérir une instruction pour comprendre justice, droit et rectitude ». Bon, ma foi, c'est assez bien transcrit dans la Bible liturgique aussi, puisqu'elle dit « faire acquérir une éducation éclairée, justice, équité, droiture », ce sont des synonymes. La suite, par contre, me semble, moi, plus problématique avec le verset 4 qui commence par donc, « à donner aux naïfs la prudence ». Alors, voilà, je ne suis pas d'accord avec le mot « naïf ». Il est trop faible en français, à mon avis, pour traduire le sens hébreu qui évoque nettement la sottise ou la niaiserie. Je trouve qu'être naïf, à mon sens, c'est presque une qualité. C'est être trop bon, trop gentil, un peu crédule, un peu neuneux, voilà. Alors qu'être niais évoque quand même plus la bêtise, une sottise qui est due à l'inattention ou à la superficialité. Et ça, c'est un défaut dont on est responsable et qu'il faut corriger. La naïveté, par contre, ben, moi, je trouve que c'est plutôt un a priori positif sur les autres, hein, qui fait qu'on leur fait confiance, ce qui me paraît plutôt bien.
Oui, mais le naïf risque malheureusement d'être une victime, hein, toute désignée, car facile à manipuler ou à tromper. C'est comme un enfant simple et inexpérimenté qui n'a pas encore conscience des problèmes de la vie. Je ne crois pas que ce soit un état forcément heureux et enviable quand même. Hein. Il faut quand même avoir les pieds sur terre hein, et devenir réaliste et savoir se défendre. C'est aussi à cela que sert l'éducation. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre la prudence, hein, comme dit Salomon. Parce qu'un minimum de méfiance est nécessaire pour survivre. C'est aussi une forme d'intelligence. Hein. Ce qui est fort intéressant aussi, c'est le mot hébreu pour prudence, hein, qui est en fait le même que pour la ruse. Et ça fait penser un peu à ce que dit Jésus à ses disciples. Hein. Si on reprend Matthieu, chapitre 10, verset 16, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc rusés comme des serpents et candides comme des colombes. » Voilà, ce verset-là nous met d'accord. Hein. On doit être à la fois candide, naïf et rusé. Donc, prudent quand même. Hein.
Voilà. Naïf et rusé. C'est pas tellement évident. Hein. C'est pourquoi il faut apprendre à vivre et chercher la sagesse. Il n'est pas facile de devenir un adulte autonome et responsable, capable de choisir le bien pour soi et pour les autres. Et c'est pour cela que le livre des Proverbes s'adresse à la fois aux jeunes et aux plus âgés, aux adultes. La suite nous le montre, verset 4. Aux jeunes, connaissance et discernement, ou dans la Bible liturgique, savoir et perspicacité, vous choisissez. Mais au verset 5, il dit « que le sage écoute et il augmentera son acquis. Donc le sage, un adulte, ce qui nous montre bien qu'on ne devrait jamais s'arrêter d'apprendre et de s'améliorer, c'est aussi ça la sagesse. Vous écoutez l'émission La Bible en question à propos du livre des Proverbes dont nous décortiquons l'introduction pour bien comprendre le but de son auteur. Nous en sommes donc au verset 5 qui exhorte les adultes à plus de sagesse, mais la deuxième partie de ce verset pose aussi question. Je vous donne d'abord une traduction littérale de l'hébreu. L'intelligent obtiendra des directions, qui peut aussi être traduit par des directives. Donc, le texte original, déjà, est très ambigu. On ne sait pas s'il s'agit de conseils pour se comporter ou pour aller dans une direction particulière. La racine rabal signifie très clairement piloter, gouverner, diriger. Mais ce qui m'étonne, c'est l'interprétation qu'ont choisi les traducteurs de nos Bibles. Hein, les deux, la liturgique qui dit « L'homme intelligent acquerra l'art de diriger ». La Tob dit « L'homme intelligent apprendra à diriger ». Donc, les traducteurs déduisent que diriger, c'est forcément diriger les autres.
Pas tout à fait, hein, puisqu'on lit, si on lit attentivement, hein, les petites notes en bas de la page, en tout petits caractères...
Il faut les chercher aussi. Oui.
On peut lire dans la Tob, hein, dans la Tob. Alors, je vous lis ces petits caractères. Le texte laisse indécise la question de savoir s'il s'agit de l'art de se diriger soi-même ou de diriger les autres. Donc, l'hébreu ne permet pas de décider, mais en français, je trouve, par la traduction, on a quand même donné la préférence à diriger les autres. Alors, moi, qui suis une mauvaise langue, je peux dire que, voilà, c'est parce que les traducteurs sont en général des hommes habitués à diriger les autres. Hein, mais je pense qu'étant donné le contexte de cette introduction au proverbe, on ferait mieux de comprendre qu'être intelligent, c'est d'abord être capable de se diriger soi-même. Hein. Au double sens du mot diriger, c'est-à-dire aller dans la bonne direction, mais aussi avoir une bonne maîtrise de soi. En tout cas, le verset 6 ensuite ajoute « Il saisira les proverbes et les traits d'esprit, les propos des sages et leurs énigmes. » Alors encore un truc compliqué à comprendre, je trouve, moi.
Oui, mais parce que c'est aussi difficile à traduire, à mon avis. Les mots sont très spécifiques et ne correspondent pas directement à des notions en français. D'ailleurs, la Tob traduit très différemment, hein, puisqu'elle dit « pour donner l'intelligence des proverbes et énigmes, des propos des sages et de leurs charades ». Qu'est-ce que les charades viennent faire là-dedans? C'est très mystérieux. Voyons ce que cela peut évoquer concrètement pour nous, tous ces mots. Le premier mot, proverbe, c'est « machal ». C'est d'ailleurs le titre en hébreu, le titre du livre, Michelet. Pourtant, dans la racine du mot, le verbe « machal », ça veut dire « comparer ». C'est-à-dire, on pourrait tout aussi bien traduire par comparaison ou donc par parabole. Ce qui veut dire que Jésus, le sage par excellence, parlait en parabole parce qu'il utilisait des événements du quotidien pour expliquer son enseignement, des comparaisons imagées, comparaisons qui se disent en grec « parabolé ». Il me semble qu'une parabole peut facilement devenir un proverbe quand elle se simplifie, vous savez, avec l'usure, et elle se transmet de manière répétitive. Mais finalement, pourquoi Jésus parlait-il en parabole ?
Il y a toujours eu deux façons de comprendre cela. Soit parce que ces explications imagées sont comprises facilement de tous, soit, à contrario, parce qu'elles sont faites pour n'être comprises que par quelques-uns, les plus motivés, qui chercheront à en pénétrer vraiment le sens. Et c'est plutôt cette interprétation-là que Jésus lui-même semble préférer. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 13. « Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. » Voilà, les enseignements du sage sont là pour éveiller l'intérêt réel des disciples, les pousser à réfléchir pour comprendre. Et c'est pour cela que le verset 6 du chapitre 1 des Proverbes est traduit dans la Tobe par « donner l'intelligence des proverbes et leurs énigmes ». Voilà, il y a peut-être un parallèle entre proverbes et énigmes, deux manières de parler en comparaison, mais voilà, pour stimuler les esprits.
Oui, ça je pense aussi, oui, mais le mot énigme, en fait en hébreu c'est un autre mot, c'est melitsa, alors, qui vient d'une racine lutz, qui veut dire railler, moquer. Alors ça explique pourquoi la Bible liturgique, qui est assez près de l'hébreu, a choisi de traduire par trait d'esprit. Comme si les sages aimaient railler et se moquer des gens un peu bêtes, trop bêtes pour les comprendre, mais moi je crois que c'est un peu excessif. Le trait d'esprit, c'est pas ce qu'il faut. De toute façon, pour dire énigme, c'est encore un autre mot que l'hébreu va choisir plus loin. Et on trouve... Donc c'est tous des synonymes. Et l'autre mot, idota, la Tobe va le traduire par charade. Tous ces synonymes tournent autour de la même idée. À mon avis, c'est un genre littéraire qui englobe des interrogations, par proverbe, parabole, énigme, même charade. La tradition ancienne d'Israël en faisait un usage énorme. C'était le jeu de société par excellence, poser des charades. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir ça, ce jeu de société, dans le livre des Juges, chapitre 14. On voit Samson qui, dans une réunion avec des Philistins, une réunion mondaine, je ne parle pas d'un combat, mais après vient le combat, verset 14, justement, il pose des charades, des énigmes, parce qu'il veut provoquer l'autre en duel, mais par l'intelligence.
Oui. On est donc très loin de la torpeur intellectuelle ou de la simple routine culturelle, quand même. Donc derrière les proverbes, il y a l'idée que la sagesse doit se mériter par un certain effort de réflexion. Il faut la désirer, se bouger un peu pour y parvenir. C'est pourquoi sans doute l'introduction du livre se termine au verset 7 par « Le savoir commence par la crainte du Seigneur ». Cette crainte du Seigneur qui est pourtant très mauvaise presse chez les chrétiens d'aujourd'hui. Comment pourrait-on la rendre plus acceptable avant d'entreprendre notre lecture des proverbes ? Parce que cette crainte de Dieu n'est pas seulement de la peur, c'est d'abord une attitude consciente, respectueuse, devant la puissance du Créateur et de ses lois. Il semble plutôt intelligent d'avoir parfois un petit doute sur soi-même quand même, et donc de se tourner vers Dieu avec une certaine humilité pour chercher ce qui est bien, ce qu'il convient de faire.
Ben oui, bien sûr, la fin du verset 7 dit cela aussi, elle ajoute « Sagesse et instruction, l'insensé les méprise ». Donc là aussi, ça vous dit par opposition que ceux qui n'ont pas une crainte suffisante de Dieu, ceux qui ne veulent pas respecter l'alliance et la loi, se comportent en fait comme des idiots. Chercher la sagesse, c'est chercher un chemin vers la vraie vie, alors que laisser libre cours à toutes nos impulsions, nos aberrations, c'est un chemin assuré vers la mort. Et pour ne pas entrer dans un comportement de ce type absurde, le texte des Proverbes, après ce verset 7, va changer et donner donc une première piste pour la quête de la sagesse. Le verset 8 que je vous lis pour terminer, « Écoute, mon fils, les leçons de ton père, ne néglige pas l'enseignement de ta mère. » Donc le père et la mère seront les premiers médiateurs de la sagesse. Mais nous verrons cela lors de notre prochaine émission. À présent, nous vous disons au revoir, chers auditeurs. À très bientôt.
Au revoir Catherine, au revoir à tous.